à Saint-Cloud, une petite villa située sur l'un des points les plus élevés du plateau, le long d'un chemin un peu fréquenté. Il est 11 heures du soir. Monsieur Lenormand a laissé son automobile à Saint-Cloud et, suivant le chemin avec précaution, il s'approche. Une ombre se détache.
« C'est toi, Gourel ?»«
Oui, chef. »
« Tu as prévenu les frères Doudeville de mon arrivée ?»«
Oui, votre chambre est prête. Vous pouvez vous coucher et dormir. À moins qu'on essaie d'enlever Pierre le Duc cette nuit, ce qui n'étonnerait pas, étant donné le manège de l'individu que les Doudeville ont aperçu. »
Ils franchirent le jardin, entrèrent doucement et montèrent au premier étage. Les deux frères, Jean et Jacques Doudeville, étaient là.
« Pas de nouvelles du prince Cernine ?»«
Aucune, chef. »«
Pierre le Duc ?»«
Il reste étendu toute la journée dans sa chambre du rez-de-chaussée ou dans le jardin. »« Il ne monte jamais nous voir. »«
Il va mieux ?»«
Bien mieux. »« Le repos le transforme à vue d'œil. »«
Il est tout dévoué à Lupin. »«
Au prince Cernine, plutôt. »« Car il ne se doute pas que les deux, ça ne fait qu'un. »«
Du moins, je le suppose. » On ne sait rien avec lui. Il parle jamais. Oh, c'est un drôle de pistolet. Il n'y a qu'une personne qui ait le don de l'animer, de le faire causer et même rire. C'est une jeune fille de Garche, à laquelle le prince Cernine l'a présentée, Geneviève Ernemont. Elle est venue trois fois déjà, et encore aujourd'hui. Je crois bien qu'on flirte un peu. C'est comme son Altesse, le prince Cernine et Madame Kesselbach. Et il paraît qu'il lui fait des yeux. Ce sacré Lupin!
Monsieur Lenormand ne répondit pas. On sentait que tous ces détails, dont il ne paraissait pas faire état, s'enregistraient au plus profond de sa mémoire, pour l'instant où il lui faudrait en tirer les conclusions logiques. Il alluma un cigare, le mâchonna sans le fumer, le ralluma et le laissa tomber. Il posa encore deux ou trois questions, puis, tout habillé, il se jeta sur son lit.
« S'il y a la moindre chose qu'on me réveille, sinon, je dors. Allez, chacun à son poste. »
Les autres sortirent. Une heure s'écoula, deux heures. Soudain, M. Lenormand sentit qu'on le touchait, et Gourel lui dit
« Debout, chef, on a ouvert la barrière. »
« Un homme? Deux hommes? »
« Je n'en ai vu qu'un. » La lune a apparu à ce moment. Il s'est accroupi contre un massif.
Et les frères Doudeville?
Je les ai envoyés dehors, par derrière. Ils lui couperont la retraite quand le moment sera venu.
Gourel saisit la main de M. Lenormand, le conduisit en bas, puis dans une pièce obscure.
Ne bougez pas, chef. Nous sommes dans le cabinet de toilette de Pierre le Duc. J'ouvre la porte de l'alcôve où il couche. Ne craignez rien. Il a pris son véronal comme tous les soirs. Rien ne le réveille. « Venez là. Hein? La cachette est bonne. Ce sont les rideaux de son lit. D'ici, vous voyez la fenêtre et tout le côté de la chambre qui va du lit à la fenêtre. »
Elle était grande ouverte, cette fenêtre, et une confuse clarté pénétrait, très précise par moments, lorsque la lune écartait le voile des nuages. Les deux hommes ne quittaient pas des yeux le cadre vide de la croisée, certains que l'événement attendu se produirait par là. Un léger bruit, un craquement.
« Il escalade le treillage. »«
C'est haut ?»«
2 mètres, 2,50 mètres. »
Les craquements se précisèrent.
« Va-t'en, Gourel. Rejoins les Doudeville. Ramène-les au pied du mur et barrez la route à quiconque descendra d'ici. »
Gourel s'en alla. Au même moment, une tête apparut au ras de la fenêtre, puis une ombre enjamba le balcon. Monsieur Lenormand distingua un homme mince, de taille au-dessous de la moyenne, vêtu de couleur foncée et sans chapeau. L'homme se retourna et, penché au-dessus du balcon, regarda quelques secondes dans le vide, comme pour s'assurer qu'aucun danger ne le menaçait. Puis il se courba et s'étendit sur le parquet. Il semblait immobile. Mais, au bout d'un instant, Monsieur Lenormand se rendit compte que la tache noire qu'il formait dans l'obscurité avançait, s'approchait. Elle gagna le lit. Il eut l'impression qu'il entendait la respiration de cet être, et même qu'il devinait ses yeux, des yeux étincelants, aigus, qui perçaient les ténèbres comme des traits de feu et qui voyaient, eux, à travers ces ténèbres. Pierre-le-Duc eut un profond soupir et se retourna. De nouveau le silence. L'être avait glissé le long du lit par mouvements insensibles, et la silhouette sombre se détachait sur la blancheur des draps qui pendaient. Si Monsieur le Normand avait allongé le bras, il l'eût touché. Cette fois, il distingua nettement cette respiration nouvelle qui alternait avec celle du dormeur, et il eut l'illusion qu'il percevait aussi le bruit d'un cœur qui battait. Tout à coup, un jet de lumière. L'homme avait fait jouer le ressort d'une lanterne électrique à projecteur, et Pierre-le-Duc se trouva éclairé en plein visage. Mais l'homme, lui, restait dans l'ombre, et Monsieur le Normand ne put voir sa figure. Il vit seulement quelque chose qui luisait dans le champ de la clarté. Et il tressaillit. C'était la lame d'un couteau. Et ce couteau, effilé, menu, stylé plutôt que poignard, lui parut identique au couteau qu'il avait ramassé près du cadavre de Chapman, le secrétaire de M. Kesselbach. De toute sa volonté, il se retint pour ne pas sauter sur l'homme. Auparavant, il voulait voir ce qu'il venait faire. La main se leva. Allait-elle frapper ? Monsieur Lenormand calcula la distance pour arrêter le coup. Mais non, ce n'était pas un geste de meurtre, mais un geste de précaution. Si Pierre-le-Duc remuait, s'il tentait d'appeler, la main s'abattrait. Et l'homme s'inclina vers le dormeur, comme s'il examinait quelque chose. « La joue droite !» pensa Monsieur Lenormand. « La cicatrice de la joue droite !» Il veut s'assurer que c'est bien Pierre-le-Duc. L'homme s'était un peu tourné, de sorte qu'on n'apercevait que les épaules. Mais les vêtements, le par-dessus, étaient si proches qu'il frôlait les rideaux derrière lesquels se cachait Monsieur le Normand. Un mouvement de sa part, un frisson d'inquiétude, et je l'empoigne. Mais l'homme ne bougea pas, tout entier à son examen. Enfin, après avoir passé son poignard dans la main qui tenait la lanterne, il releva le drap de lit, à peine d'abord, puis un peu plus, puis davantage, de sorte qu'il advint que le bras gauche du dormeur fut découvert et que la main fut à nu. Le jet de la lanterne éclaira cette main. Quatre doigts s'étalaient. Le cinquième était coupé à la seconde phalange. Une deuxième fois, Pierre-le-Duc fit un mouvement. Aussitôt, la lumière s'éteignit, et durant un instant, l'homme resta auprès du lit, immobile, tout droit. Allait-il se décider à frapper ? Monsieur le Normand eut l'angoisse du crime qu'il pouvait empêcher si aisément, mais qu'il ne voulait prévenir cependant qu'à la seconde suprême. Un très long silence. Subitement, il eut la vision, inexacte d'ailleurs, d'un bras qui se levait. Instinctivement, il bougea, tendant la main au-dessus du dormeur. Dans son geste, il heurta l'homme. Un cri sourd. L'individu frappa dans le vide, se défendit au hasard, puis s'enfuit vers la fenêtre. Mais M. le Normand avait bondi sur lui et lui encerclait les épaules de ses deux bras. Tout de suite, il le sentit qui cédait et qui, plus faible, impuissant, se dérobait à la lutte et cherchait à glisser entre les bras. De toutes ses forces, il le plaqua contre lui, le ploya en deux et retendit à la renverse sur le parquet.
Je te tiens.
Et il éprouvait une singulière ivresse, emprisonné de son étreinte irrésistible, ce criminel effrayant, ce monstre innommable. Il se sentait vivre et frémir, rageur et désespéré, leurs deux existences mêlées, leurs souffles confondus.
« Qui es-tu ? Qui es-tu ? Il faudra bien parler !»
Et il serrait le corps de l'ennemi avec une énergie croissante, car il avait l'impression que ce corps diminuait entre ses bras, qu'il s'évanouissait. Il serra davantage et davantage. Et soudain, il frissonna des pieds à la tête. Il sentait une toute petite piqûre à la gorge. Exaspéré, il serra encore plus. La douleur augmenta. Et il se rendit compte que l'homme avait réussi à tordre son bras, à glisser sa main jusqu'à sa poitrine et à dresser son poignard.
Le bras, certes, était immobilisé, mais à mesure que M. Lenormand resserrait le nœud de l'étreinte, la pointe du poignard entrait dans la chair offerte.
Il renversa un peu la tête pour échapper à cette pointe. La pointe suivit le mouvement et la plaie s'élargit. Alors il ne bougea plus, assailli par le souvenir des trois crimes et par tout ce que représentaient des pharans d'atroce et de fatidique, cette même petite aiguille d'acier qui trouait sa peau et qui s'enfonçait, elle aussi, implacablement. D'un coup, il lâcha prise et bondit en arrière. Puis, tout de suite, il voulut reprendre l'offensive. Trop tard.
« Attention, Gourel !»
cria-t-il, sachant que Gourel était là, prêt à recevoir le fugitif. Il se pencha. Un froissement de galets, une ombre entre deux arbres, le claquement de la barrière, et pas d'autre bruit. Aucune intervention. Sans se soucier de Pierre le Duc, il appela
« Gourel ! Doudeville !»
Aucune réponse. Le grand silence nocturne de la campagne. Malgré lui, il songea encore au triple assassinat, au stylet d'acier. Mais non, c'était impossible. L'homme n'avait pas eu le temps de frapper. Il n'en avait même pas eu besoin, ayant trouvé le chemin libre. À son tour, il sauta, et faisant jouer le ressort de sa lanterne, il reconnut Gourel qui gisait sur le sol.
« Crébleu ! S'il est mort, on me le paiera cher !»
Mais Gourel vivait, étourdi seulement. Et quelques minutes plus tard, revenant à lui, il grognait
« Un coup de poing, chef ! Un simple coup de poing en pleine poitrine ! Mais quel gaillard !»«
Ils étaient deux, alors ?»«
Oui, un petit qui est monté, et puis un autre qui m'a surpris pendant que je veillais. »«
Et les Doudeville ?»«
Pas vu. »
On retrouva l'un d'eux, Jacques, près de la barrière, tout sanglant, la mâchoire démolie. L'autre, un peu plus loin, suffoquant, la poitrine défoncée.
Quoi ? Qu'y a-t-il ?
Jacques raconta que son frère et lui s'étaient heurtés à un individu qui les avait mis hors de combat avant qu'ils n'eussent le temps de se défendre.
Il était seul ? Non. Quand il est repassé près de nous, il était accompagné d'un camarade, plus petit que lui. As-tu reconnu celui qui t'a frappé ? À la carrure, ça m'a semblé l'anglais du Palace Hotel, et celui qui a quitté l'hôtel, et dont nous avons perdu la trace.
Le major ?
Oui, le major Parbury.